Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
What time is it now? Time is it now?
Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Bieber left. 75. Katie.
Omaha. We're good.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery.
Yeah!
Go ahead. Goal line. Touchdown. Touchdown.
Touchdown.
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous pour l'épisode numéro 359 du podcast Jeune Actu. On va le dire maintenant, saison 10, épisode 1. Oui, on arrive à la 10e saison. Il n'y a pas beaucoup de séries qui arrivent aussi loin. Alain Mathé, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison NFL 2020 qui s'annonce très spéciale. À mes côtés, Grégory Richard, bonjour.
Salut Alain et bonjour à tous.
Après 32 previews, après un power ranking en direct, nous voilà donc repartis pour notre rythme habituel. Grégory, l'émission du jeudi pour présenter les matchs du week-end, mais pas seulement, on va y revenir. L'émission du mardi pour les débriefer et le fauteuil évidemment entre les deux le dimanche pour l'avant-match NFL. La première semaine de la saison régulière est donc là. Grégory, l'émission du jeudi est un peu remaniée cette saison. On ne parlera plus seulement preview pur et dur, puisqu'on va aussi éditorialiser un peu, comme on dit. Une question d'actu en début d'émission, l'affiche de la semaine et les pronos, ça revient. Et puis vos questions qui seront maintenant le jeudi, avant elles étaient le mardi. On l'a déjà dit pendant le live et on le rappelle à ceux qui n'étaient pas là. Maintenant, on va essayer d'équilibrer un petit peu les deux émissions. L'émission du mardi débordait quand même pas mal souvent autour de l'heure et quart, l'heure et demie. Là, on va pouvoir remettre les questions le jeudi pour rééquilibrer tout ça. C'est aussi simple, ce n'est pas d'énormes changements évidemment, la base reste la même. Grégory, es-tu prêt pour cette saison NFL 2020 qu'on va qualifier de particulière parce que en dehors d'une intersaison déjà chargée, en plus on a le Covid, en plus il y a les élections américaines, en plus, il va se passer.
Ça fait beaucoup. Après le fait qu'il n'y ait pas eu de pré-saison, forcément ça fait monter un peu plus l'excitation de pouvoir enfin voir les matchs. Donc c'est vrai que de pouvoir enfin se faire une idée vraiment claire et précise sur les forces et les faiblesses de chacune des formations, c'est pas plus mal de pouvoir enfin découvrir ça après tant de mois d'attente.
Oui, on le dit d'avance d'ailleurs, c'est une preview de semaine 1 un peu spéciale parce que c'est la première fois en 10 ans de podcast que on va faire une preview d'une saison sans avoir vu la moindre minute, le moindre snap de pré-saison. Donc ça aussi, ça rend les choses un peu particulières. Premier jingle, premier thème.
Salut, c'est Laurent du Dernier Tardif en direct de Miami et vous écoutez Touchdown Actu. Started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now my whole team fucking here. Started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now the whole team here. Nigga, started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now my whole team here. Nigga, started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now the whole team fucking here. I done kept it real from the jump. Living at my mama's house, we'd argue every month, nigga.
On commence donc, Grégory, par le sujet d'actualité de la semaine, actualité slash débat slash, voilà, on va pas appeler ça débat parce que sinon ça incite trop au putaclic et à chercher absolument des thèmes clivants. Celui-là, il nous a été servi sur un plateau par les Chiefs eux-mêmes, le champion en titre. Les joueurs n'ont pas arrêté d'en parler pendant l'intersaison. Ils veulent devenir une dynastie. Tyreek Hill a parlé de jusqu'à 7 bagues. Patrick Mahomes est plutôt content que ses copains soient ambitieux. Je crois que Chris Jones aussi s'était mêlé à la surenchère, je ne sais plus ce qu'il avait dit exactement, mais en tout cas du côté de Kansas City, on est très confiant, on parle énormément de dynastie. La question donc de cette semaine et de cette première émission de la saison est: les Chiefs peuvent-ils devenir une dynastie? Grégory, est-ce qu'on pourrait peut-être pas commencer par une définition? C'est quoi pour toi une dynastie?
C'est forcément une période plus ou moins longue qui permet à ton équipe d'être extrêmement dominante. J'ai pas été fouillé dans le petit Larousse, mais en tout cas, oui, c'est vrai que c'est une période d'ultra domination, je dirais d'au moins 5 ans, peut-être. Et je pense qu'en NFL, c'est quand même pas négligeable. Donc c'est vrai qu'après, on va forcément faire la comparaison, mais d'autres ont placé les standards tellement haut qu'on peut relativiser. Mais en tout cas, oui, déjà sur ne serait-ce que 5 saisons. Sur une grosse partie de la décennie, je pense qu'on peut le dire comme ça, si tu marques vraiment, et là en plus c'est une décennie qui commence, si tu marques vraiment ton empreinte la majeure partie de la décennie, je pense qu'on peut appeler ça très clairement une dynastie.
Alors tu as les Cowboys 91-96, 3 titres en 4 ans, les 49ers 81-94 avec 5 titres, les Steelers 72-79 avec 4 titres en 9 saisons, et puis peut-être ce qui est la dynastie ultime quand même, les Patriots, 17 participations aux playoffs en 19 ans, 9 apparitions au Super Bowl et 6 titres. Aujourd'hui, c'est quand même la référence ultime, et d'ailleurs c'est probablement un beau clin d'œil de commencer à parler d'une dynastie Chiefs maintenant, au moment où celle des Patriots, en tout cas dans sa forme Belichick-Brady, parce qu'il ne faut pas enterrer Belichick tout seul, semble appeler à s'éteindre.
Oui, c'est un peu... oui, c'est vrai que de ce point de vue-là, oui, c'est vrai que les fins et débuts de cycle respectifs, enfin les fins de cycle, en tout cas pour Belichick-Brady, comme tu le dis, parce que même Belichick, je pense que je ne le vois pas non plus coacher pendant 10 ans,
oui.
Même s'il n'a pas l'air de se tenir en trop mauvais état à 60, je crois qu'il a 69, 70 ans à l'heure d'aujourd'hui, pardon.
Il a un doute, il est plus jeune que Pete Carroll, je crois que c'est
oui.
Ça qui m'a
oui, il a un an de moins, un ou deux ans.
Il a 68 ans.
68, autant pour moi. Oui, c'est vrai que après, c'est un peu ce qu'on se disait, notamment lors de la finale de conférence AFC 2018, où on avait cette espèce de passage de flambeau supposé malgré les résultats favorables aux Pats à ce moment-là. Voilà, le fait que Kansas City mette la main sur ce titre au moment justement où Brady décide de changer de crèmerie, c'est sûr que ça peut laisser sous-entendre en effet que Kansas City, je dirais pas à la voie libre parce qu'il y a d'autres candidats, notamment dans la conférence américaine, on aura le temps d'en reparler, mais voilà, en tout cas peut être vraiment le nouvel épouvantail de cette AFC.
Alors, est-ce que dans les ingrédients principaux, l'essentiel, parce que j'ai cité donc Patriots, Steelers, 49ers, Cowboys, est-ce que les ingrédients principaux, Kansas City ne les a pas déjà, c'est-à-dire un grand quarterback, un grand coach? Si tu penses Patriots, tu penses Brady Belichick. Si tu penses Steelers, tu penses... J'ai un trou, c'est Chuck Knoll. Non, c'est pas Chuck Knoll.
C'est Chuck Knoll.
Voilà. Et Terry Bradshaw, 49ers, évidemment, il y a
Bill Walsh
merci,
et
Joe Montana, puis Steve Young, Troy Aikman, Jimmy Johnson, voilà, on pense à ces grands duos-là. A priori, Patrick Mahomes, Andy Reid, c'est quand même... Alors, Andy Reid est plus expérimenté, mais Patrick Mahomes, c'est du jeune, mais il a le talent pour devenir un de ces quarterbacks là, quoi.
Oui, bien sûr. Mais alors, je vais pas dire par rapport au standard qu'on a connu, mais j'ai pas forcément dans l'idée. Alors, bon, vous m'excuserez, tout ce qui est Montana et Bradshaw, c'est un peu plus ancien, mais c'était pas dans des périodes où le jeu aérien était aussi important qu'il peut l'être aujourd'hui. Mais même si on prend l'exemple de Brady ou de Aikman, les premières années. Alors, Brady, d'un point de vue statistique, ou en tout cas, voilà, collectivement, il n'y a rien à redire. Il est champion, il me semble, la première année où il est vraiment titulaire à New England. Ouais. Après, statistiquement, on en avait parlé, ses premières années ne sont pas non plus ultra ébouriffantes. C'est pas le fait de faire 300 yards par match qui permettait à New England de croire au titre. Et Ekman, pareil, un petit moment, un petit peu de flottement au début. Et ça a commencé à bien se goupiller au début des années 90. Après, des standards de ce qu'on peut voir actuellement de Patrick Mahomes.
Il démarre plus fort, oui.
Oui, voilà, c'est ça. Il marque quand même son territoire. Une saison quand même assez historique en 2018. En 2019, il a manqué quelques matchs. Malgré tout, dès son retour plus ou moins à 100%, on a senti une grosse différence dans le domaine aérien. C'est vrai qu'il y a quand même cette patte, je dirais, peut-être un peu plus explosive, en tout cas dans le domaine aérien, que ce que pouvait donner le début des dynasties que tu évoquais tout à l'heure. Donc, c'est sûr qu'à ce niveau-là, on peut s'attendre quand même à une équipe de Kansas City qui sera assez spectaculaire et plaisante à voir.
Est-ce que les Colts de Manning, c'est une dynastie ? Voilà, on est d'accord.
Compliqué.
Je te vois grimacer. En fait, parce que je me fais une réflexion, alors c'est pas une comparaison, elle est loin, elle est complètement imparfaite, hein, je le reconnais, mais je me dis que les Chiefs ont le potentiel de devenir soit une dynastie, en effet, soit les Colts de Manning, c'est-à-dire une attaque formidable, un quarterback formidable, mais parfois trop souvent lâché par sa défense pour être une dynastie, parce qu'on a quand même parlé des Patriots, des Steelers, etc. C'est des équipes qui sont formidables et on parle du quarterback, mais c'est aussi des défenses qui sont formidables. Belichick, c'est un coach défensif, les Steelers, c'est des équipes défensives, les 49ers, il y avait quand même des gros talents défensifs aussi. Ronnie Lott notamment dans ses défenses chez les Cowboys aussi,
et même Dallas qui n'était pas forcément c'était pas le point sur lequel on insistait le plus. On parlait beaucoup des trois playmakers offensifs et de la ligne offensive, mais la défense, il y avait quand même pas mal de rookies.
C'est ça, donc c'est peut-être là en fait moi que se joue la différence pour les Colts, pour les Chiefs. Voilà, justement j'en lapsus, c'est que j'ai l'impression que leur meilleur scénario, en effet, c'est une dynastie. Le pire scénario, ce qui est déjà un bon scénario puisqu'ils ont déjà une bague, c'est les Colts de Manning, c'est-à-dire cette équipe super fun, super offensive, mais qui ne pourra pas toujours aller au bout parce que là, ça parle beaucoup de dynastie, mais il faut rappeler qu'ils ont quand même été menés dans leurs trois matchs de play-off. Je ne pense pas qu'ils pourront se permettre ça tous les ans, quoi. Il y a un moment où ça pourrait être compliqué. Après, ils ont passé le cap plus vite que Manning, donc ils peuvent aussi dérouler derrière.
Oui, c'est sûr. Après, encore une fois, voilà, sur les Colts, moi, c'est mon ressenti parce qu'en effet, il n'y a peut-être pas cette concrétisation fréquente. D'après, la régularité, elle y était, hein, très, très clairement. Mais c'est vrai que ce n'est pas une équipe. Certains diront que c'est aussi lié sans doute au fait d'avoir un autre monstre dans la division et dans la ligue. Mais c'est vrai que leur domination globale n'a pas été matérialisée. Voilà, un seul Super Bowl, si je peux m'exprimer ainsi. C'est bon. Je pense qu'on pouvait en attendre plus quand même de cette équipe des Colts entre 2000 et 2000, ça va être 2008, 2009, je pense, vraiment les années où Manning a été dominant. Donc, très franchement, voilà, ils sont pas systématiquement en finale de conf contre les Pats, en l'occurrence. Et pour revenir sur ce que tu disais, je pense que la clé, très clairement, et on en revient justement à cette histoire de défense également, la clé, très franchement, est-ce qui a fait que les Pats, justement, ont été une équipe très régulièrement difficile à prendre, c'est que Belichick avait cet avantage de se réinventer constamment. Il y a des saisons où c'est le jeu au sol qui est vraiment dominant. Il y a des saisons, alors forcément, on garde la saison 2007, bien entendu, comme prime un petit peu de cet état d'esprit-là, mais il y a des saisons où l'attaque aérienne a été beaucoup plus prolifique. Et puis, en effet, on est sur des dernières saisons, notamment, où la défense, je dirais pas porte à bout de bras parce que c'est pas les seuls, mais en tout cas, est vraiment ultra dissuasive. Et c'est sûr que c'est ce qui permet à New England, même si, comme c'est toujours le cas en NFL, il peut y avoir certaines escouades qui sont peut-être un peu moins bien, on en a toujours d'autres qui surperforme, si je peux parler ainsi, ou en tout cas qui ont vraiment une baisse de régime très faible et qui permet justement à cette équipe d'être ultra régulière et de rester dans les standards habituels. Après, si ça et ça, est-ce que Kansas City est capable de le faire ? Est-ce que Kansas City est capable de se réinventer quand on connaît quand même malgré tout certaines lacunes d'Andy Reid, hein, parce qu'on on l'a souvent décrié pour ça, justement, cette difficulté à se réinventer un petit peu, c'est ce qui lui a coûté sa place à Philadelphie à l'époque. Est-ce qu'Andy Reid a cette capacité chez les Chiefs ? C'est ce qui reste encore à déterminer.
Après, il fait quand même quoi ? 5 titres cinq finales NFC de suite, non ? Ou 5 titres NFCS de suite, Andy Reid, à un moment ? Avec les avec oui, Philadelphie. Aussi, ouais. J'ai un trou, je suis désolé pour les supporters des Eagles. Mais il a une année où il enchaîne. Je crois que c'est 5 finales NFC de suite, si je dis pas de bêtises. Enfin, ils font un truc, ils font un enchaînement de 5 ans, les Eagles, qui étaient très très forts. Je crois que
c'est. Au début des années 2000, tu penses alors ?
Oui, c'est ça.
Je sais qu'il y a une finale contre Tampa, il y a la finale, justement, le Super Bowl qui dispute contre les Pats.
Je suis en train de vérifier.
Après, je.
Non, ils font 5 saisons à plus de 11 victoires avec perte en défaite en divisionnale, en finale de conférence, en finale de conférence, en finale de conférence et au Super Bowl. Donc ils font 4 finales NFC de suite.
Donc, le début de la collaboration entre Reed et McNabb aurait pu laisser également
mais ce que je veux dire,
supposer une dynastie à venir, et ça s'est pas concrétisé de cette manière-là.
Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, c'est quand même un élément rassurant sur la capacité d'Andy Reid à rester constant au plus haut niveau sur une certaine période. Et là, il a quand même un mec, avec tout le respect que j'ai pour McNabb, qui est un cran au-dessus au niveau de l'attaque.
Ouais. Après, si tu veux, mon avis, tu allais sans doute y venir, hein, mais je parlais de la question de se réinventer d'un point de vue coaching. Faut pas oublier également que si on prend le dernier exemple en date, donc des Patriots, on a notamment un Tom Brady qui a souvent été très intelligent d'un point de vue gestion salariale.
Oui, alors ça, c'est le problème auquel je voulais arriver.
Voilà, mais bon, je me permets d'anticiper un peu, mais qui a souvent permis justement aux Pats d'avoir cette marge de manœuvre suffisante pour renforcer l'équipe sur des secteurs où on en avait besoin. Et là, malgré tout, on est dans une intersaison où les Chiefs ont bien fait de blinder les principaux cadres, que sont justement donc Mahomes, Kelsey et Jones en premier lieu. Mais est-ce que ça va pas se payer sur la durée au bout d'un moment? Alors, j'en suis pas sûr.
Clairement, c'est un point qu'il fallait évidemment aborder. On peut pas le dire dans l'avenir, donc on sait pas ce qu'ils vont faire. On va pas rester 10 ans là-dessus. Mais clairement, ils ont tous dit pendant l'intersaison, oui, on veut en gagner plein, oui, on veut en gagner 7, oui, machin, etc. Il y a un moment où ils vont en effet devoir le montrer dans leurs prétentions salariales. Parce qu'ils sont tous très forts, ils sont tous très bien mis en valeur par leur coach. Ils vont tous pouvoir toucher plein de pognon s'ils le veulent. Il y a un moment où il va falloir qu'ils mettent leurs intentions derrière leur porte-monnaie ou l'inverse, je ne sais pas comment on dit. Mais il va falloir qu'ils prouvent que s'ils veulent en gagner beaucoup, en effet, il va falloir qu'ils trouvent tous des compromis. Parce que comme tu l'as dit, Brady se débrouillait plutôt pas mal pour ça. Et ça a été une des clés de la dynastie de New England. Donc,
C'est d'un point de vue coaching. On sait qu'Andy Reid est quand même réputé pour sortir également des assistants coach. Ça se remarque beaucoup plus en attaque qu'en défense. Même si on sait qu'il y a John Harbaugh aussi qui était plus sur les équipes spéciales, mais qui reste quand même un peu plus axé sur la défense que sur l'attaque. Mais oui, et puis voilà, il y a peut-être la possibilité également, je pense à certains postes, notamment où les Chiefs rognent un petit peu la ligne offensive, ils font surtout de la promotion interne plus que, on va dire, des superstars à signer. Linebacker, corner, bon, c'est. Voilà, on va dire qu'ils essayent de compenser comme ça. Là, ça a réussi en 2019 avec une politique de plier sans rompre. Ça a plus ou moins tenu en défense pour la première année de Hispaniolo, ça, on en avait parlé lors de la preview. Encore une fois, est-ce que sur le long terme, ça peut tenir? Va vraiment falloir justement que les joueurs soient bien développés et du coup, de facto, bien coachés.
Tyreek Hill est allé jusqu'à parler de setback. Je pense que même si c'est une très belle équipe, ça va être un peu difficile. On va peut-être commencer par une question qui est de savoir s'ils peuvent réussir le doublé. On l'a déjà posé dans les previews, mais on va la reposer ici. Ça semble quand même, je vais avoir du mal à dire le contraire vu qu'on les a mis numéro 1 dans le power ranking d'hier. Donc je pense en effet qu'ils peuvent aller chercher le doublé, même s'il y a des interrogations sur leur défense par rapport à d'autres équipes. Mais le côté explosif de cette attaque rend tout possible. Est-ce que tu penses qu'ils peuvent réussir le doublé et voire plus?
J'ai beaucoup de points d'interrogation sur l'AFC en règle générale, donc c'est toujours la même chose. J'en parlais tout à l'heure, c'est vrai qu'on a souvent dit, à tort selon moi, que les Pats allaient souvent au Super Bowl ou en finale de conférence parce que justement l'AFC était faiblarde. Alors qu'elle ait été un peu plus faiblarde que la NFC, je pense que c'était globalement un fait. Maintenant, ça n'empêchait pas d'avoir quelques équipes, justement, on parlait des Colts, les Ravens qui ont souvent été là, les Steelers également, qu'il fallait quand même se farcir au moins une fois par an la majeure partie du temps. Là, c'est sûr que les Chiefs, on va se retrouver à peu près dans la même situation, c'est-à-dire que l'AFC me paraît quand même bien moins armée que la NFC. Au premier abord, il y a bien entendu des clients, il y a toujours les Ravens, il y a toujours les Steelers, je pense qu'il faudra surveiller, ça vous en avez parlé hier, je vais pas refaire le power ranking live. Mais c'est sûr que ça leur laisse quand même une fenêtre assez importante, avec les problématiques qu'on évoquait notamment, Roethlisberger qui revient de blessure à Pittsburgh, Lamar Jackson dont on attend encore la confirmation en playoff à Baltimore. C'est des choses qui jouent en faveur de Kansas City. Après, je suis pas le plus optimiste qui soit. Je pense qu'ils ont largement la place pour aller au Super Bowl. Pour conserver le titre dès cette saison, je ne sais pas, mais ils ont largement les moyens, je te rejoins là-dessus.
C'est un autre débat, tiens, on fera peut-être dans une autre émission, mais je vous trouve dur avec l'AFC. J'ai l'impression que l'AFC est juste moins homogène, mais je n'ai pas l'impression que la qualité, si tu prends la dernière équipe de play-off, soit si différente de la NFC. J'ai juste l'impression que justement, les Chiefs et Ravens sont tellement au-dessus qu'ils donnent l'impression que les autres sont moins bons. Mais je suis pas sûr que ce soit une moins bonne conférence que la NFC. Mais c'est un autre débat. C'est un autre débat. On fera dans une prochaine.
Très bien.
On fera dans une prochaine. Ça n'a pas été vu depuis 2003-2004, pardon, le doublé sur les Super Bowls 2003 et 2004, donc saison 2002 et 2003. Sur les 10 derniers champions, seulement 2 ont joué le Super Bowl l'année suivante et ils ont perdu. Donc ça, c'est les Seahawks qui perdent contre les Patriots et les Patriots qui perdent contre les Eagles, si je dis pas de bêtises.
C'est ça. Ouais.
Sur les Super Bowls qui suivent. Bon, encore une fois, je pense qu'ils peuvent. Ils ont les armes. Après, Dynasty, c'est quand même toujours difficile à dire. On va pas donner de réponse définitive. On voulait juste vous donner des arguments. C'est pour ça qu'on appelait pas ça forcément un débat. C'est un sujet de la semaine, mais on va pas vous balancer des trucs, des grandes certitudes qu'on n'a pas. Hein. Je pense qu'on est d'accord là-dessus, Grégory. C'est pas tout à fait notre notre registre. Mais voilà, vous avez les arguments, vous avez les éléments. Moi, je pense que ça peut être en tout cas une des équipes majeures des années à venir, très clairement. Maintenant, en effet, c'est toujours dur de confirmer, de concrétiser en NFL. Donc, ce serait quand même assez présomptueux d'annoncer une dynastie alors que personne n'a réussi à un doublé depuis plus de 15 ans. C'est quand même déjà la première étape. Le sujet de la semaine, c'est fait. On passe à l'affiche, évidemment. On rentre dans le dur. New Orleans Saints, Tampa Bay Buccaneers, c'est la première très grosse affiche de la saison NFL 2020. Ça va être magnifique. La première de Tom Brady avec les Buccaneers aura lieu à New Orleans. Inutile de dire que c'est un premier défi titanesque. Peut-être sans Mike Evans, au moment où on se parle, Grégory, il est touché aux ischios et incertain pour cette rencontre. Est-ce que Tom Brady est un peu dans la peau de l'outsider pour ses débuts avec Tampa ?
Complètement. C'est vrai qu'on attendait forcément de savoir, parce que ça fait quand même plusieurs semaines maintenant qu'on répète que l'intersaison va être délicate par rapport au contexte sanitaire, et on a quand même une attaque de Tampa qui, même si elle fait rêver sur le papier, a quand même beaucoup changé en quelques mois, pas seulement au poste de quarterback. Donc c'est vrai que va quand même y avoir pas mal d'ajustements à prendre en compte, et c'est vrai que commencer par un déplacement chez les Saints, alors je vais pas griller les étapes, mais ça peut quand même être vu à double tranchant. C'est-à-dire que d'un côté, en effet, tu joues, selon moi, contre le favori de la NFC. Sur ces terres, dans un match de division où les Saints ont forcément rêvé avec le couteau entre les dents, en se disant, ah ouais, tiens, soi-disant, il y a le nouveau meilleur quarterback de la division qui arrive, on veut lui montrer ce qu'on vaut, etc., etc. Après, il me semble que les Saints commencent pas toujours très, très bien leur saison régulière.
C'est vrai.
Ça a été contesté l'année dernière lors de leur Monday Night contre Houston. Mais de mémoire, ils gagnent sur un field goal à la dernière seconde de Will Lutz, dans un match où les Texans ne déméritent pas du tout. Donc très franchement, on se rappelle il y a 2 ans la défense qui se fait découper par Fitzpatrick. Donc bon, on ne sait pas trop exactement ce qu'il faut en faire. Après, mais pour répondre à ta question concrètement, oui, Tom Brady apparaît clairement dans une position d'outsider, tout comme son équipe, encore plus en l'occurrence si son receveur numéro 1 est un petit peu fragilisé.
Ça sent quand même le gros match offensif. En tout cas, sur le papier, on a 2 grosses attaques, même si, encore une fois, elles arrivent sans rodage. Il y a vraiment, on part de zéro dans ce match, ça va être le premier snap pour eux. Encore plus celle de Tampa. Du coup, tu sais que j'aime bien faire ça dans ce genre de gros match offensif. Quelle est la meilleure défense ? Quelle est la mieux placée pour faire la différence, en tout cas ? Là encore, l'avantage semble être à New Orleans.
Bah, j'en parlais lors des previews. J'attends quand même de voir le niveau du run stop des Saints. Ils n'ont pas perdu grand monde. Demario Davis, qui était leur taulier la saison passée, est toujours là. Il me semble que Kiko Alonso, par contre, est forfait pour ce week-end. Mais ils ont quand même d'autres linebackers également. Craig Robertson, qui doit toujours être là. Alex Anzalone, qui est revenu de blessure. Donc, globalement, il y a quand même une ossature qui est présente. Après le départ de Mike Nolan pour Dallas, j'attends de voir ce que ça peut donner. À l'inverse, du côté de Tampa, le jeu au sol était quand même très, très propre. Le run stop.
Celui des Saints aussi, hein, je me permets de te couper, ils sont 4e contre le sol l'an dernier.
On est d'accord, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment le départ du coach qui, moi, m'intrigue, dans le sens où il faut voir s'ils arrivent justement à garder la constance qu'ils avaient l'année dernière dans ce domaine-là. À Tampa, il y a eu moins de changements côté coaching staff, il y a un groupe qui reste sensiblement le même, notamment le duo Lavonte David, Devin White. Et je pense qu'à ce niveau-là, même avec un running back qui est capable de pas rester dans un seul registre de jeu au sol, avec des linebackers qui peuvent être assez polyvalents, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Après, sur la sur le jeu contre la passe, j'ai moins de certitude de chaque côté. J'ai jamais caché mon scepticisme sur la couverture côté Saints. Je suis pas plus optimiste sur la couverture côté Bucks. Donc là, comme ça, je te dirais que la défense des Bucks me rassure un tant soit peu par rapport au run stop. Mm-hmm. Mais c'est pas de deux ou trois têtes d'écart, quoi. Très clairement, je pense que ça va être plus ou moins, ça va être plus ou moins au même niveau selon moi.
Après, si les Saints, tu parlais de la défense au sol des Saints, s'ils bloquent Tampa en bas et que Brady se retrouve pour son premier match sans Mike Evans, sans beaucoup non plus d'automatisme avec ses receveurs, même s'il y a Gronkowski, mais on ne sait pas dans quel état il est non plus.
Ils ont pas mal de tight end aussi, hein, même si les Saints sont quand même assez réputés pour avoir des groupes de safety assez fournis et assez cogneurs, donc ça va être à surveiller aussi.
Avec Malcolm Jenkins qui est revenu en plus. En plus, alors... Si bloquer Tampa au sol, c'est Ronald Jones, LeSean McCoy, Leonard Fournette. Leonard Fournette doit avoir un rôle solide selon son coach. Ronald Jones est le titulaire officiellement. Mmh. Quelle sauce on pourrait avoir le droit là-dessus? C'est un peu flou aussi, hein, ce qui attend les Saints au sol.
Bah, c'est ça. Je serais pas étonné. Encore une fois, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de similitudes malgré tout. Je sais pas s'ils joueront exactement de la même manière, mais en tout cas, d'un point de vue profil, c'est quand même assez similaire. Il y a quand même deux quarterbacks très expérimentés et je pense que McCoy, je pense, sera peut-être plus un troisième coureur en l'occurrence. Je ne sais pas dans quel état est arrivé Fournette exactement, mais à mon avis, oui, on sera
officiellement dans la forme de sa vie.
Ouais, bah c'est toujours comme ça de toute façon. Au début de la saison, tout va bien dans le meilleur des mondes.
Évidemment.
J'en doute pas, hein, mais bon, j'attendrai d'en voir plus pour être assuré là-dessus. Mais oui, on peut être dans le même format justement que Kamara Murray. C'est-à-dire que Jones comme Kamara peut apporter justement un peu plus de polyvalence en sortie de backfield et Fournette va être peut-être un petit peu plus là pour rentrer justement sur des courses plein centre. Elle est vraiment bûchée. Je sais que beaucoup ne sont pas hyper convaincus par son statut de running back numéro 1, mais avoir un joueur quand même de cette envergure capable de soulager un petit peu, on dira, son comité de coureurs, tout en justement mettant un peu plus de pression et en forçant les Saints à bien considérer justement ce jeu au sol de Tampa. Ce qui était quand même un problème, mine de rien, chez les Bucks ces dernières années, hein, c'est cette difficulté à avoir un jeu au sol dominant et à mettre peut-être un peu trop de pression sur ses quarterbacks. Là, en l'occurrence, je pense que ça peut être un duo de chaque côté qui va être intéressant à suivre parce qu'il va vraiment falloir être hyper discipliné défensivement pour bien défendre sur n'importe quelle phase de jeu.
Est-ce que New Orleans a quand même pas un avantage pour moi sur le fait qu'ils vont avoir une attaque aérienne? Alors mettons les jeux au sol, voilà, vont être importants évidemment pour établir le rythme, mais tu l'as dit, c'est un peu la même config, sauf que Drew Brees est dans son club depuis toujours maintenant, ou presque. Michael Thomas, Alvin Kamara, c'est hyper rodé. Emmanuel Sanders a montré l'an dernier qu'il pouvait s'adapter hyper vite quand il est arrivé aux 49ers. Et en face, en plus, il y a des jeunes cornerbacks à Tampa qui vont être testés très, très rapidement et très clairement dans ce match. Donc, sur la même config, j'ai l'impression que New Orleans, moi, part avec des avantages, en fait, dans les secteurs clés, notamment, évidemment, l'expérience et la cohésion des années précédentes, quoi.
Oui, non, c'est pour ça, parce que depuis 5 minutes, on pourrait penser que je vais passer New Orleans pour une équipe qui va essayer, tant bien que mal, d'arracher le match nul. Bon, ils sont quand même, à mon sens, quand même largement favoris de ce match. J'ai pas donné mon pronostic encore, mais je le répète, c'est quand même une équipe qui sera favorite de la conférence nationale et en effet qui a quand même une force de frappe hyper établie dans le domaine offensif avec Sean Payton qui gère toujours ça de main de maître. Une ligne offensive où ils ont laissé partir Larry Warford, mais ils ont récupéré un très bon joueur au premier tour avec César Wiss. Il faut voir comment se passe son intégration, mais je suis pas très très inquiet là-dessus. Donc, franchement, cette équipe de Tampa, en effet, alors c'est vrai que j'en ai pas vraiment parlé, mais autant la ligne offensive de Tampa peut poser question par rapport à certains cadres de la ligne défensive des Saints, je pense notamment, bien entendu, avec Cameron Jordan, autant est-ce que le pass rush de Tampa, avec un Jason Pierre-Paul, sur lequel je suis toujours pas convaincu en 34, face à la grosse ligne offensive des Saints qu'on voit depuis quelques années, est-ce que ça peut mettre vraiment sous pression un Drew Brees qui, comme tu le disais, voilà, garde toujours des bons réflexes, hein, malgré ce qu'on peut en dire, toujours un très bon placement, toujours une capacité à trouver rapidement ses cibles une fois qu'il les a identifiés. Donc c'est voilà, ça va quand même être assez compliqué du côté de Tampa et c'est aussi ce qui fait que ça nous promet un match à points.
Alors, le prono et le scénario, on va dire, comment tu vois ça?
Bah écoute, je te dirais les Saints. vainqueur, avec ou sans Mike Evans, hein, je précise d'emblée. Après, le scénario, sans être trop original, je pense que c'est un match qui va monter rapidement dans les points et qui, en quatrième quart, va être peut-être un peu plus intense, un peu plus avec des défenses qui vont peut-être élever encore un peu plus leur niveau de jeu. Mais tu veux un score ?
Non, enfin, pas forcément. Non, c'était vraiment avoir une idée globale.
Ouais, je te dirais peut-être, allez, moins d'un touchdown d'avance peut-être pour New Orleans. Parce que franchement, j'aimerais bien quand même que ce soit un petit chassé-croisé pour que ça nous donne du suspense jusqu'au bout, mais je vois quand même les Saints avoir un ascendant.
Bon, les Saints, pour moi aussi, je l'ai dit, je pense qu'ils sont un petit peu supérieurs dans tous les domaines à l'heure actuelle et qui bénéficient évidemment de leur expérience collective. Donc, moi, je serais même pas étonné de les voir prendre un petit avantage dès le début, en fait, et de dérouler un petit peu derrière. Bon, ça n'engage que moi, mais je vais dire les Saints également pour cette première affiche de la saison. C'est l'heure de passer au pronostic de tous les autres matchs.
It's time, baby! Make it special tonight! Make tonight special! It's our night! And it's our division! It's our time to go win it! We're gonna start fast and finish strong! Yes, sir. We're gonna work on three! One, two, three, work!
La première semaine NFL est devant nous, Grégory. Il y a un match, alors évidemment dans la nuit de jeudi à vendredi comme d'habitude, celui-là on va le pronostiquer, mais si vous nous écoutez vendredi matin, vous pouvez déjà vous moquer. Et puis tous les autres matchs de la semaine, évidemment les 32 équipes seront sur le terrain, on parle de la première semaine. Il y a donc 16 rencontres. Le premier match, il oppose les Kansas City Chiefs, aux Houston Texans. Tout le monde est à zéro, c'est un remake d'un match de playoff l'an dernier où les Texans avaient largement mené au score avant de se faire rejoindre. DeAndre Hopkins n'est plus là donc pour Houston, même s'il y a pas mal de cibles. Brandin Cooks est incertain au moment où on se parle pour la rencontre quand même, ce qui va quand même être à mon avis un truc qui va revenir souvent à Houston puisqu'ils ont un beau groupe de receveurs mais qui sont tous très fragiles. Donc Brandin Cooks est incertain, l'armada des Chiefs, on en a beaucoup parlé. Au niveau des pronostics, ça me semble plutôt, en tout cas s'il faut mettre de l'argent dessus, assez évident. Grégory, ce sera quoi pour toi?
Bah écoute, j'en parlais tout à l'heure, hein, Houston avait créé un peu la surprise de New Orleans l'année dernière. Sean Breland est suspendu de mémoire. Donc ça va être encore un peu plus expérimental sur les squads de corner quand même du côté de Kansas City. Après, ouais, je dirais que sur un match un peu pour lancer la saison, je pense qu'ils sont quand même en mesure de battre une équipe de Houston en plus ou moins en refonte offensive.
Oui, alors j'ose espérer qu'après avoir parlé de dynastie aussi longtemps, ils vont être concentrés au moins sur le premier match. Donc je vais dire Kansas City aussi. Coup d'envoi dimanche à 19h, on rentre dans le vif. Atlanta Falcons, Seattle Seahawks. Grégory, on rentre dans le vif donc pour ton équipe. Est-ce que Atlanta à domicile, alors on rappelle évidemment à domicile mais sans public, donc ce qui permettra à Atlanta de continuer à diffuser des faux bruits de foule, mais cette fois de manière légale.
C'est ma blague.
Désolé, on s'était pas concerté.
Personne n'y a pensé de toute façon.
Oui, je pense à peu près tout le monde. En fait, je m'étais dit, je vais pas être très original, est-ce que je l'ai fait. Donc Atlanta, Seattle, on a parlé de la faiblesse des lignes de Seattle dans les différentes previews. Est-ce qu'Atlanta peut en profiter, pardon?
Pour faire pire, je sais pas. Non, mais très franchement, ces deux équipes, forcément, qui n'ont jamais été très réputées pour leur ligne ces dernières saisons. Donc, ouais, je pense qu'ils partent à peu près sur un pied d'égalité là-dessus. Après, c'est vrai qu'Atlanta a peut-être un peu plus considéré, notamment la D-line, ce qui n'est quand même pas vraiment le cas de Seattle, je trouve, pendant cette intersaison. La O-line non plus, hein, diront certains, où ça reste globalement le même effectif. Donc, on va dire qu'Atlanta a fait un peu plus d'efforts, espère un peu plus de développement de la part de leurs deux joueurs de deuxième année, Chris Lindstrom et Caleb McGarry. Après, est-ce qu'il y a vraiment un ascendant pur et dur pour Atlanta dans ce domaine-là? J'en suis pas sûr. Mais bon, en tout cas, je sais pas. Je suis pas aussi pessimiste que j'ai pu l'être précédemment pour Atlanta. Offensivement, il va quand même falloir les stopper de nouveau. Et c'est là-dessus que j'attends de voir si Seattle a ce qu'il faut en rayon pour le faire durablement.
Écoute, je mouille, première surprise de la saison, victoire d'Atlanta.
Tu me vois venir, non?
Ah oui, tu vas pas, tu vas pronostiquer Seattle.
Je vais pronostiquer Seattle. Bon, il y a quand même Russell Wilson, quand même. Puis il y a une escouade de cornerback qui me fait un peu peur. Et avec le duo Metcalf-Lockett, va quand même falloir les stopper.
C'est vrai.
Et même le jeu au sol, très clairement, bon, Le run stop, je suis pas encore convaincu à 100%. Et Chris Carson et Carlos Hyde, je pense que Seattle va pas hésiter à les lancer d'entrée.
C'est vrai, mais encore une fois, en fait, j'ai passé du temps à critiquer les lignes de Seattle pendant toutes les previews, donc il faut que je justifie un moment avec des actes.
Ah, mais moi, ça me va très bien. Mais
donc, petite surprise pour commencer la saison, même si évidemment Russell Wilson est incroyable et que voilà, mais il faut des surprises de temps en temps. Je précise que ce match Atlanta-Seattle sera diffusé sur le site internet de l'équipe, donc l'équipe.fr, en clair. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil là-dessus. Au moment où on se parle, c'est le seul diffuseur annoncé. Nous enregistrons à 11h43 ce jeudi 10 septembre, je le dis. Voilà, il y aura peut-être d'autres diffuseurs annoncés. Pour l'instant, rien d'officiel. Donc, on relaye au plus vite. Mais je vous jure, hein, je suis le premier à vouloir que tout le monde annonce. Parce que ça permettra que ça se calme sur les messages privés, mon téléphone portable et tout ça sonne en permanence depuis.
Ceci est à l'appel au secours.
Voilà. Non, mais après, je comprends. C'est quand même super rageant que tout le monde attende la dernière minute, quoi. C'est quand même au bout d'un moment, c'est assez ouais. Je trouve c'est vrai que c'est assez surprenant de voir que tout se décide comme ça à la dernière seconde. Mais voilà, il faut vivre avec ça. Donc, nous, on colle aux annonces le plus vite possible, donc en espérant qu'il y ait le plus de diffusion possible, bien évidemment. Bills-Jets, premier match de la NFC Est, de l'AFC Est, pardon, dans cette saison. Bills-Jets, avec des Bills qui sont quand même plutôt favoris sur la pente ascendante, bien coachés par Sean McVay ces dernières années. Ça semble plus galère avec Adam Gase, même si cette équipe de New York s'est grattée 5 victoires l'an dernier, malgré des conditions difficiles, des blessures, une mononucléose et tout ce que vous voulez. Est-ce que les Jets peuvent créer la surprise?
Ouais. Tu voulais dire Sean McDermott, j'imagine.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
J'ai dit quoi, Sean McVay, pardon.
McVay, mais c'est pas vrai, on
je mélange les Sean.
Il y a pas de souci. Ouais, encore une fois, moi c'est vrai que je fais partie de ceux qui considèrent un peu que les gros bilans de fin de saison, ça reste quand même à relativiser. Je l'ai quand même vu avec Atlanta l'année dernière. Ça a été une grande spécialité des Raiders pendant très longtemps sur la fin de cycle d'Al Davis. Donc, c'est pas dire que les Jets sont fondamentalement nuls. Je pense qu'ils vont quand même avoir une défense capable de contrecarrer un minimum cette attaque des Bills qui va avoir besoin, malgré l'arrivée de Stephon Diggs, je pense, de trouver tous les automatismes. Je pense que ça va monter en puissance petit à petit cette attaque de Buffalo, mais un peu sur le modèle de ce qu'on avait vu l'année passée, je pense que la défense peut poser pas mal de soucis à cette attaque de Buffalo. Après, ça me paraît quand même très rédhibitoire du côté de l'attaque de New York. C'est un peu toujours la même chose, c'est-à-dire que Sam Darnold a du talent, a du potentiel. Il a un Breshad Perryman qui est fragile, il a un Denzel Mims, le rookie, qui est fragile. Donc, si ces deux joueurs sont effectivement forfaits ce week-end, on va quand même se retrouver avec Chris Hogan et j'ai oublié le deuxième d'ailleurs, je crois que c'est Jamison Crowder. Mm. Ça fait quand même très très léger quand tu veux prendre à défaut les Bills et leur nouveau cornerback multimillionnaire Tre'Davious White. Voilà, c'est bon. J'y vais avec Buffalo, très clairement, sans trop de surprises.
Buffalo également, très grosse défense. Bon, faut jamais rien exclure hein, dans les oppositions de division, mais ça semble quand même beaucoup plus dense du côté de Buffalo. Detroit Lions, Chicago Bears, là encore une opposition de division. Beaucoup, beaucoup d'oppositions de division, d'ailleurs. Hein, je suis en train de voir sur ma liste. Donc, Detroit Lions, Chicago Bears, c'est une opposition de style, parce qu'il y a une équipe qui a l'attaque et l'autre qui a la défense. Ils feraient un super combo s'ils alliaient leurs forces. Je vais parier sur l'attaque de Detroit, parce que je ne crois toujours pas en Mitchell Trubisky, qui va devoir se débrouiller en tant que titulaire dans cette rencontre, même s'il y a éventuellement une belle défense hein, du côté de Chicago. Mais je vais miser là-dessus. Il y a Adrian Peterson qui arrive. Il y a éventuellement un comité de coureurs pas inintéressant du côté de Détroit avant que Peterson fasse une crise quand on lui aura pas donné tous les ballons et qu'il se barrera en milieu de saison. Mais je pense que je vais aller sur Détroit pour celui-là.
C'est pas facile ce match. C'est pas facile parce que d'emblée, j'y serais allé sur Chicago. Ce qui m'inquiète un peu, c'est l'état de forme de David Montgomery, alors qu'on annonçait out pendant plusieurs semaines et qui, a priori, aurait repris le chemin de l'entraînement ce mercredi. Est-ce qu'il sera vraiment à 100%, je sais pas. Par sécurité, entre guillemets, je vais y aller sur Détroit. Mais sans être rassuré, je pense que je serai jamais vraiment rassuré par les Lions cette saison, quel que soit l'adversaire. Donc,
non, c'est deux équipes qui sont foncièrement pas rassurantes, hein, de toute façon.
Non, donc j'y vais sur Détroit.
Minnesota Vikings, Green Bay Packers, là encore, c'est du choc de la NFC Nord. Les Vikings reçoivent. Les Packers étaient en finale de conférence quand même aux dernières nouvelles. Ils ont renforcé encore leur secteur au sol. Ça pourrait être un match un peu old school, hein, d'ailleurs. Il y a du pass rush des deux côtés. Alors, Daniel Hunter ne sera pas là, par contre, côté non. Vikings. Ce qui peut changer pas mal de choses.
Et Ngakoue peut jouer ? Enfin, j'imagine que c'est des joueurs qui se maintiennent en forme un minimum avant d'arriver, mais il est quand même arrivé sur le tard, quoi.
Bah, écoute, a priori, en tout cas, il n'y a pas d'infos blessures au moment où on se parle. Donc, oui, Ngakoue devrait pouvoir être là.
Bon, très bien. C'est jamais facile de pronostiquer Minnesota, surtout à Minneapolis. Là, c'est sûr que son supporter sera peut-être un poil différent. J'ai pas suivi toute l'actualité, mais je suis pas sûr. Enfin, en tout cas, il n'y aura pas l'ambiance qu'il y a d'habitude. Dans leur stade.
Je vais dire Green Bay.
C'est compliqué parce que l'absence d'Hunter, je parlais du poste de corner qui est quand même un peu exposé très très jeune en ce début de saison.
Voilà. Et pour l'instant, Aaron Rodgers ne fait pas trop la tête. On va le laisser monter en pression. Donc je vais.
Mais c'est un match de division, j'irai quand même sur Minnesota à demi.
À Minnesota pour toi. New England, Patriots, Miami Dolphins, encore de la division. New England donc, Cam Newton, Bill Belichick, l'association improbable démarre. Tout le monde s'est fait des bisous pendant l'intersaison. Bill, il est génial. Non, c'est toi qui es génial. Toi, Cam, t'es bien. Non, c'est toi le meilleur. Non, c'est toi le plus bosseur. Non, c'est toi qui reste le plus tard. Donc, ça s'annonce plutôt pas mal pour l'instant. Il n'y a pas beaucoup de receveurs. En face, c'est Ryan Fitzpatrick. Tu vois, Tagovailoa n'est pas encore titulaire. Je vais aller sur New England parce que, force de la défense, face à quand même une équipe de Miami qui reste très limitée. Et je l'ai dit, je crois dans le projet Cam Newton.
Ouais. Je suis moins dithyrambique là-dessus. Enfin, pas qu'il soit, mais...
Oui, dithyrambique, je ne sais pas, mais...
Alors déjà, on rappelle quand même que Miami, sans être extraordinaire ces dernières années, il me semble que ça s'offre au moins une fois par an le scalp des Pats. La dernière en date, c'était l'année dernière, en dernière semaine de saison régulière, ce qui a quand même coûté la deuxième place de la conférence aux Pats. Est-ce que ça aurait changé fondamentalement leur parcours en playoff? J'en suis pas persuadé, mais en tout cas, c'était quand même une défaite pour le moins surprenante. Il y a eu en effet pas mal de remodifications pendant l'intersaison avec des anciens Pats qu'on rejoint notamment Miami. Maintenant, je te rejoins. Je pense que globalement, un peu sur la même logique que ce que je disais tout à l'heure sur Tampa, il y a quand même pas mal de choses à reconstruire. Je pense que très clairement, sur les premières semaines, les équipes qui ont quand même dû beaucoup rebâtir, je pense que ça va pas forcément être hyper beau à voir. Alors en effet, du côté des Pats, entre les départs Covid... la certaine refonte également offensive, ça va pas être forcément extraordinaire. En tout cas, c'est pas ce que je pense. Mmh. Mais je dirais peut-être oui les Pats, mais pas de 20 points selon moi.
Non, là il va pas y avoir beaucoup de matchs de 20 points pour les Patriots cette année quand même. Ce sera pas le menu. Hein. Donc Patriots pour les deux. Washington contre Philadelphia Eagles, ça se joue donc dans la capitale à Washington avec une équipe qui est quand même largement en reconstruction. On croise les doigts pour Ron Rivera qui vit quand même des moments difficiles. Il était en chimiothérapie il y a quelques jours, il a manqué l'entraînement Donc ça, c'est quand même vraiment pas facile à gérer non plus, en plus de tout ce que cette franchise a géré ces derniers mois. Et Philadelphie semble quand même largement supérieure sur l'effectif, avec ce qu'il leur reste de joueurs qui ont survécu à l'intersaison. Alors, on parle même pas de ceux qui vont survivre à la saison en termes de blessures, mais pour l'instant, il leur reste des gars. Avec Carson Wentz, avec Fletcher Cox, avec encore pas mal de qualités, je vais dire Philadelphie.
Ouais, il y a un match-up que je suis impatient de voir, c'est le match-up entre, je sais pas s'ils vont forcément jouer tout le temps, mais à mon avis, je serais pas étonné que ce soit le cas. Jason Peters, Chase Young.
Oui.
Le challenge pour l'un qui tombe sur un des vétérans de la ligue, le challenge pour l'autre qui a 38 ans, repasse left tackle contre un petit jeune, frais comme un gardon, prêt à aller chercher les 15 sacs par campagne. Ça va être assez sympa à voir. Après, c'est vrai que Washington, ça continue de se dépeupler paradoxalement en attaque et de laisser un peu Dwayne Haskins tout seul. Trent Williams, c'était pas là l'année dernière, mais bon, ils ont une ligne qui est encore plus friable selon moi. Ils ont pas de jeu au sol, ils ont que Terry McLaurin. Ça fait trop léger, je pense. Ça fait une équipe des Eagles décimée, mais qui devrait à l'expérience s'imposer, je pense.
Les Eagles pour tout le monde, Carolina Panthers, Las Vegas Raiders. Évidemment, les Raiders sont ma hype de l'intersaison, donc je vais me ranger.
Évidemment, les Panthers sont ma hype de la saison.
Le power de Derek Carr qui va fermer les bouches pendant des mois. Même s'il a des receveurs qui sont jeunes, il a Darren Waller, il a Brandon Jacobs. Je vais pas y arriver, j'ai déjà Josh dit Brandon Jacobs. Jacobs hier, je vais dire Josh Jacobs, c'est mieux. Il y a des progrès. Ça monte doucement et surtout, je ne crois pas du tout en Terry Bridgewater. Donc, les Raiders prennent.
Il y aura peut-être Tyrell Williams du côté de l'attaque de Las Vegas. Il y a d'autres receveurs.
Pas besoin, il y a Henry Ruggs.
C'est vrai. Il y a Hunter Renfro. Bref, je ne vais pas tous les citer, mais je suis d'accord avec toi, il y a quand même du potentiel.
J'ai envie de dire qu'Henry Ruggs va s'essuyer les pieds sur la défense de Carolina. Black bilingue.
D'accord. Je vais rester sur ma logique. Je crois que cette équipe des Panthers va en surprendre plus d'un cette année, mais je pense que ça va se faire au fur et à mesure de la saison quand les automatismes vont se trouver. Et je pense que sur cette première semaine contre une équipe de Las Vegas qui n'a pas été bouleversée non plus, notamment offensivement, je vois Las Vegas s'imposer.
Les Jaguars contre les Colts, on revient dans des duels de division. C'est quand même aussi beaucoup plus complet là du côté d'Indianapolis. Il y a pas vraiment on a dit que les Jaguars étaient derniers de notre power ranking. Et au niveau d'Indianapolis, la curiosité, c'est évidemment les débuts de Philip Rivers. Mais que ce soit là ou en défense ou partout, il semble avoir l'avantage.
Oui, oui, tu dis plus complet, j'aurais dit moins vide. Parce que là, très franchement, du côté de Jacksonville, en plus, le timing n'aidant pas, il cut Leonard Fournette pour se retrouver 3 jours après avec un Raquel Armstead sur la touche pour cause de Covid. Donc, on se retrouve avec le rookie non drafté James Robinson en titulaire, que moi, personnellement, j'aimais beaucoup en sortie d'Illinois State. Après, est-ce qu'il aura le potentiel dès la première semaine pour avoir une charge de travail suffisante et pour retirer une pression des épaules de Gardner Minshew? J'en suis pas persuadé. Donc j'irai en effet sur Indianapolis aussi.
Les Indianapolis aussi. Baltimore Ravens, Cleveland Browns, une belle affiche de la FC Nord. Les Ravens donc roulent au compresseur au sol. Très belle défense aussi. Ils sont un peu partout dans nos power rankings qu'on a publié ces derniers jours sur le site. Les Ravens sont favoris. Après, Cleveland a quand même du matos avec Miles Garrett, avec Austin Hooper qui arrive en renfort de Beckham et de Landry et de Nick Chubb. Enfin, il y a du matos. Je pense pas que les Browns vont créer la surprise. Je vais parier sur les Ravens pour être raisonnable, mais ça pourrait être un match plus serré que prévu.
Oui, il faut pas oublier. Alors, c'est pas le même contexte exactement à ce moment-là de la saison, mais Cleveland est une des deux seules équipes à avoir fait tomber Baltimore. Encore plus à Baltimore l'année dernière, même si c'était en début de saison et que beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses se sont passées entre-temps. C'est vrai que cette ligne offensive un peu expérimentale malgré tout du côté de Cleveland, avec le besoin d'incorporer Jack Conklin et potentiellement le rookie Jedrick Wills, même si je pense que ce sera surtout Chris Hubbard qui aura un peu voix au chapitre côté gauche. Baltimore, malgré leur domination l'année dernière, avait un peu de déchets sur le pass rush. Avec les ajouts, notamment sur la ligne défensive qu'ils ont fait, je pense qu'il y a quand même moyen de mettre en difficulté cette O-line et de remettre un petit peu dans le doute Baker Mayfield dans ce début de saison. Donc je dirais en effet Baltimore aussi.
Baltimore pour tout le monde. Coup d'envoi à 22h05 dimanche. Cincinnati Bengals, Los Angeles Chargers. Joe Burrow est déjà le capitaine de cette équipe de Cincinnati. En face, ce sera Tyrod Taylor avec Los Angeles. Bon, c'est pas encore un duel de quarterback ultra prestigieux, mais Los Angeles semble quand même avoir l'avantage sur la foi de sa défense, pour le coup, et même du matos qu'il y a autour du quarterback.
Ouais, bah, ce qui est problématique, ça j'en ai parlé pendant toute la preview hein, sur les Bengals. Moi, ce qui m'embête un peu, c'est que oui, ils ont un nouveau quarterback, oui, ils récupèrent AJ Green, oui, il y a des signes positifs qui peuvent laisser entendre qu'ils ne seront pas aussi catastrophiques que ce qu'on a pu voir en 2019. Maintenant, il y a deux secteurs qui, moi, me paraissent rédhibitoires, c'est la ligne offensive et le poste de linebacker. On a un Austin Eckler qui va être débarrassé de la concurrence un peu, je dirais pas malsaine, mais voilà, en tout cas, un peu polluante en interne de Melvin Gordon. Et je pense qu'il peut avoir un bon rendement contre ce run stop des Bengals. Et puis en face, ouais, tu le disais, il y a quand même une ligne chez les Chargers. Il y a peu de points aussi positifs, je trouve, du côté de Los Angeles que la ligne défensive, ou en tout cas le pass rush. Enfin, c'est une escouade de tackle que je trouve très limitée. Ouais. Ça peut en effet être une première compliquée pour Burrow et j'y vais sur les Chargers.
Allez, Chargers pour tout le monde. 22h25 dimanche, Saints Buccaneers. On a tous les deux donné les Saints. San Francisco 49ers, Arizona Cardinals. Là encore, une affiche de division plutôt alléchante avec des 49ers en finaliste du Super Bowl face à des Cardinals qui sont une des équipes sensations de l'intersaison avec l'arrivée notamment de DeAndre Hopkins. Il y a du monde dans ces deux équipes. Je vais donner l'avantage aux 49ers sur l'expérience et sur la puissance de leur jeu au sol notamment. Mais Arizona a quand même de la puissance de feu là pour embêter le San Francisco.
Ouais, c'est sûr. Il me semble avoir vu côté blessure que Deebo Samuel et Brandon Ayuk, les deux receveurs un peu stars de l'équipe, étaient plus que limités
oui,
physiquement.
Il y a beaucoup de problèmes de blessure pour les receveurs des Niners.
Bon. Voilà, quand il va falloir affronter Patrick Peterson et Byron Murphy, bon, je pense pas que ce soit les premiers venus, surtout le premier cité. Donc tu le disais, c'est vrai, et George Kittle qui a un impact assez important, mais on sait que l'arrivée d'Isaiah Simmons va être très scrutée. Et à mon avis, les deux vont se croiser 2-3 fois sur ce type de match. C'est justement pour contrer les tight ends qu'on a fait venir Simmons du côté de l'Arizona, et là, ils auront un test grandeur nature. Donc ça se jouera à très peu de choses, je pense. Je vais jouer la sécurité, en effet, en jouant comme toi les Niners à l'expérience. Après, franchement, je serais tout sauf étonné qu'Arizona arrive à s'offrir San Francisco des premiers matchs de la saison.
Niners pour tout le monde. Coup d'envoi dans la nuit de dimanche à lundi à 2h20 du matin. Los Angeles Rams, Dallas Cowboys. Ce sera donc dans le nouveau stade des Rams, le SoFi Stadium, si je ne dis pas de bêtises, qui va donc être inauguré malheureusement sans public. C'est une des tristesses de l'année. Je ne sais plus si les Raiders jouaient à domicile à Vegas. Je crois qu'ils sont à l'extérieur là, mais leur inauguration du coup sera aussi un peu tristounette. Les Rams contre les Cowboys, c'est plutôt un choc hein, de la NFC, là pour le coup, avec une équipe des Rams qui était finaliste du Super Bowl il y a quand même un an et demi. Et puis des Cowboys toujours avec des grosses ambitions, un effectif quand même plutôt bien fourni. J'ai mis les Cowboys, mais... Je ne serais pas étonné que les Rams puissent aller chercher celui-là.
Bah, j'étais pas ultra convaincu par leur couverture contre la passe, en l'occurrence. Et c'est pas forcément le secteur contre lequel il faut être pas très bien fourni contre Los Angeles.
Bah, c'est ça.
Donc, en effet, ils risquent un peu de s'exposer. Surtout qu'en défense, je pense qu'il y a des choses qui vont être à régler les premières semaines. Après, franchement, c'est un peu comme les Bengals. C'est-à-dire que les Rams, ils ont tellement des secteurs. Alors, la ligne offensive, en tout cas, le pass pro un peu moins, parce que tu as quand même un joueur comme Andrew Whitworth, tu as quand même des joueurs un peu dissuasifs, même s'ils commencent un petit peu à prendre de l'âge. Hein. C'est un peu comme Jason Peters, au bout d'un moment, ça va se voir. Mais ouais, ligne offensive, run stop, c'est quand même des choses qui, moi, me laissent penser que Dallas, à la longue, peut quand même finir par prendre la mesure de son adversaire. Mmh. Et j'irai sur Dallas également.
J'hésite finalement. Je sais pas, je suis en train de me dire que Woods Cup sur la défense de Dallas. Le problème, c'est qu'il y a une inconnue au sol quand même maintenant pour les Rams. Leur succès, oui. Il était beaucoup basé sur Todd Gurley l'année où ils vont loin. Je vais dire Dallas par sécurité, mais j'hésite pour celui-là. Bon, coup d'envoi dans la nuit de lundi à mardi, 1h15. New York Giants, Pittsburgh Steelers. Celui-là, il y a quand même un peu moins d'hésitation. Hein, ça va aller sur les Steelers. Ils sont quand même beaucoup plus complets. Retour de Ben Roethlisberger après une blessure très longue. Voilà, il y a quand même très peu de matos en défense du côté de New York, même s'ils arrivent à être honorables avec Saquon Barkley et pourquoi pas Daniel Jones. Il y a tellement de matos en défense à Pittsburgh et il y a tellement peu de matos en défense à New York que celui-là, il me semble évident pour Pittsburgh.
Oui, c'est un peu ça. Disons que le run stop de Pittsburgh est redevenu dominant, donc je pense qu'ils ont largement de quoi contrer un minimum Saquon Barkley, mettre un peu de pression à Daniel Jones. Et voilà, à la longue, je vois pas les Giants, avec euphémisme, marquer 30 points à la défense des Steelers. Voilà. Après, toujours les mêmes interrogations sur l'attaque hein, du côté de Pittsburgh, mais bon, cette défense des Giants m'impressionne pas plus que ça, à vrai dire.
Et puis, deuxième Monday Night, puisqu'il y en a toujours deux en ouverture, dans la nuit de lundi à mardi, 4h10 du matin, Broncos, Titans, les équipes, une équipe donc, qui était en finale à AFC l'an dernier, les Titans, et des Broncos qui espèrent monter. Alors, tu disais tiens, que tu croyais pas trop aux fins de saison boulet de canon en général. Est-ce que celle des Broncos t'a plus convaincu? Et est-ce qu'il pourrait du coup titiller Tennessee?
Oui, dans le sens où il y a quand même, je trouve, un effort qui a été fait pour vraiment renforcer l'attaque sensiblement pendant l'intersaison. Et la défense, franchement, je fais globalement confiance à Vic Fangio. Je pense qu'il y a des secteurs, d'un point de vue coaching, l'arrivée de Pat Shurmur, qui... On parle beaucoup de Drew Lock et de son escouade de receveurs, en effet, avec l'arrivée de Jerry Jeudy, peut-être le développement de Noah Fant en tight end. Ça, c'est des choses indéniables. Après, il y a quand même une belle triplette sur le jeu au sol et je pense que Pat Shurmur va pas se priver pour l'utiliser. Il y a une ligne offensive où il y a toujours des points d'interrogation avec le fait d'avoir laissé Garrett Bowles, côté gauche et le retrait de dernière minute de Jawan James parce qu'il a été remplacé par Demar Dotson. Mais je pense que Mike Munchak peut développer également cette ligne offensive qui est là pour sa deuxième année. Je pense qu'il y a moyen que ça se développe. Et puis voilà, encore une fois, Vic Fangio, la défense, je lui fais globalement confiance malgré le forfait de dernière minute et probablement pour la saison de Von Miller.
Oui, ça fait mal.
Voilà. Mais
alors, ceci étant dit, les Titans sont quand même favoris et tu vas parier sur eux.
Non, je vais dire les Broncos.
Tu vas dire les Broncos.
Je vais dire les Broncos parce que, alors, je pense que c'est deux lignes offensives qui sur cette première semaine vont être un peu en difficulté. Les Titans, je suis pas emballé du tout par leur O-line. Taylor Lewan a fait une bonne fin de saison passée comme beaucoup de ses coéquipiers, mais je le trouve pas extraordinaire depuis son arrivée à Nashville. Et à droite, avec en plus un Isaiah Wilson qui est en retrait par rapport au Covid, Dennis Kelly et Tyson Brello que j'ai un peu connu à Atlanta, c'est léger. Okay. C'est léger. Donc, malgré le forfait de Von Miller, je pense que Denver, il y a quand même la place pour qu'ils tapent Tennessee d'entrée et qu'ils arrivent à freiner un minimum Derrick Henry.
Alors, je vais plus respecter Jeffrey Simmons, Jadeveon Clowney quand même, qui vient d'arriver, Kevin Bayard. Je vais aller sur les Titans quand même, qui en défense semble pouvoir ralentir Denver.
J'ai parlé de
largement.
La triplette de coureurs. Il y a un bon run-stop du côté de Tennessee. Après, c'est toujours pareil. Hein, j'étais un peu réticent sur le fait que Mike Vrabel prenne la casquette de cordeau. J'ai plus de réticence sur Tennessee, mais je pense que ça fera les playoffs. Hein, mais... sur cette première semaine à Denver, ça peut se prendre les pieds dans le tapis.
Allez, Tennessee, pour moi, on passe à vos questions. Les questions qui passent donc au jeudi maintenant. Grégory, le principe reste le même. Je vais piocher dans les questions qui ont été mises en ligne sur le site. N'hésitez pas à participer toutes les semaines. Dirty Fighter nous demande, dernière saison à 16 matchs a priori, est-ce que pour vous, cela changera votre regard sur la valeur des futurs records en saison et en carrière? Puisqu'on devrait passer à 17 a priori l'année prochaine ou la suivante. Je
et du coup, ça galvaudrait les...
Enfin, galvaudrait les records qui tomberont plus vite a priori du coup.
Oui, bon, après, c'est un match de plus, c'est pas, c'est pas du tout la même comparaison, mais c'est pas comme si tu comparais, par exemple, en Formule 1, les époques où t'as 10 Grands Prix, et aujourd'hui t'en as 22.
C'est vrai.
Mais oui, non, je vois ce qu'il veut dire, c'est sûr que forcément, ce serait peut-être à recontextualiser, après, bon, biaisé,
après, moi,
je sais pas.
Je regarde pas beaucoup les records, pour être très honnête, donc, m'en touche une sans faire bouger l'autre, pour être honnête. Mais non, mais je regarde pas. Si, il y a des records que j'aime bien, tu vois, les 23 touchdowns. J'aime bien le nombre de touchdowns par saison, moi, genre les 23 touchdowns de Randy Moss, les 31 de la Denian Tomlinson, des choses comme ça. Mais c'est vrai que je regarde moins maintenant. Alors, j'avoue que je suis pas trop traumatisé par ça. Jeff The One, avec la crise sanitaire, croyez-vous en un Super Bowl sans spectateurs et le show de la mi-temps dans ce cas-là? On n'a pas trop le choix d'y croire, vu qu'on vient de voir une finale de Ligue des Champions sans spectateurs.
C'est sûr. Après, c'est peut-être pas tout à fait la même chose. C'est sûr qu'un Super Bowl sans public, c'est quand même très bizarre. Mais après, encore une fois, on peut essayer de se rassurer en se disant que c'est pas non plus demain.
Non. qu'il va
se passer certaines choses. On ne sait pas. Il y aura peut-être une petite pression pour qu'il y ait un peu plus de monde d'autorisé. Je ne sais pas.
Je sais, on va faire du clic. Bouge pas, Greg. Est-ce que tu penses qu'il devrait avoir le droit de prendre de la chloroquine pour.
Non, mais voilà, c'est une possibilité. Après, il faut avoir ce qui est mis en place. Je ne sais pas pour le Super Bowl.
Après.
Je sais qu'il y a le modèle de la NBA hein, qui se copie un petit peu partout avec notamment des gens que tu mets sur les écrans qui mettraient peut-être un peu d'ambiance
ouais,
autour.
Ouais, bon, je sais pas. Après,
logistiquement, un peu plus compliqué, mais. Et bon, je pense qu'ils planchent éventuellement sur des plans B.
Après, le public du Super Bowl, ce n'est pas le plus chaud de l'année hein, en général.
Non. Donc, non, voilà.
Question de Hank, quelle est pour vous la position la plus sous-cotée au football américain?
Bah, Gunner, Matthew Slater, Hall of Fame. Non, mais alors, blague à part. Gunner, il faut quand même être un joueur hyper complet. Et je veux dire, bon, on a l'impression que c'est un poste où bon, le gars, voilà quoi.
C'est vrai qu'il faut. Oh
bah
être
c'est bien, t'as gratté le ballon avant qu'il sorte dans la end zone. Bravo, gars, maintenant on va t'asseoir.
Je vais troller, je vais dire qu'il faut être complet. En effet, il ne faut pas être assez fort pour être receveur titulaire, pas être assez fort pour être coureur titulaire, si pas être assez fort pour être cornerback titulaire.
Il faut être rapide, il faut être bon plaqueur, il faut être synchro avec ton punter. C'est beaucoup de choses.
Je plaisante, mais je
le précise pour nos auditeurs. Je sais que
j'ai beaucoup de respect,
troll un peu.
J'ai beaucoup de respect pour les équipes spéciales au sens où c'est un des postes les plus dangereux en plus.
En plus.
Donc ça, oui, je ne leur retirerai jamais. Ceci étant dit, est-ce qu'on peut dire que kicker est encore sous-coté? Parce que vu l'importance de la position maintenant avec les extra points à 33 yards, etc., je ne comprends même pas qu'il n'y ait pas plus de formation et d'insistance là-dessus. Et des mecs qu'on fasse une spécialité hyper jeune parce qu'ils peuvent prendre comme Justin Tucker des beaux contrats maintenant vu leur importance. C'est j'ai sûr. Pas l'impression qu'il y ait 32 kickers fiables en NFL aujourd'hui.
Non mais alors je vais même poursuivre dans ton truc parce que je l'ai pas dit tout à l'heure avec Chicago. Je suis même pas sûr qu'il y ait 32 kickers dans les équipes. Et
oui.
Puisqu'on a parlé des Pats qui ont cuté Rohrwasser et Folk avant de faire leur groupe de 53, donc ils se retrouvent encore à l'heure actuelle, me semble-t-il, sans kicker officiel à part en dehors de la practice squad. Chicago a quand même cuté Eddie Pinheiro.
Oui.
Enfin, ils l'ont pas cuté, ils l'ont mis sur la réserve des joueurs blessés, il me semble.
Ouais, je crois. Ouais.
Mais du coup, alors ils ont Cairo Santos sur la practice squad, mais officiellement, à l'heure où on se parle, même si je pense que Santos sera réactivé entre temps,
oui.
Ils n'ont pas de kicker. Donc, oui, on peut considérer qu'aujourd'hui, c'est pas forcément la position la plus surcotée non plus.
Tiens, question un peu hors foutuesse. Question de Hank, regardez-vous d'autres sports en dehors du football et du basket? Par exemple, le baseball, le hockey, le flag football ou le rugby? Toi, t'es très fin, non?
Oh, ça m'arrive, mais plus pour le boulot. Après, ça m'arrive de regarder le baseball et le vélo, mais plus pour dormir.
Et moi, je vais quitte à lancer un pavé, mais je regarde même plus le basket. J'ai pas regardé un match depuis peut-être 2 ans. Et en fait, je regarde rien en dehors du foot US. Et je crois que le jour où je ferai plus TDA, je toucherai plus au sport du tout, en fait, même dans le boulot. Non, mais tu vois, ouais, je regarde plus rien d'autre, en fait. Je regarde juste les Coupes du Monde et les Euros de foot, tu vois.
Donc, oui, à peu près pareil. Oui.
Mais sinon, pas des masses, quoi. Pas des masses. Quel est... Alors, attendez, autant pour moi. Amo 4. Vu le contexte actuel, confinement, camp d'entraînement raccourci, aucun match de pré-saison, est-ce que vous pensez que les équipes qui ont gardé leur effectif stable par rapport à 2019 seront celles qui gagneront le plus de matchs en 2020? Moi, j'en suis convaincu. Forcément, il semble y avoir un avantage.
Bah, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Après, je pense que ce sera notable au début et que forcément, au fur et à mesure, bon, il faudra voir, bien entendu, parce que ça, c'est vrai qu'on en parle encore très peu parce qu'il n'y a pas encore de méga grosses vedettes. Mais c'est sûr que si on se retrouve avec un top joueur qui se retrouve sur la liste Covid, il y en a qui vont faire un peu la gueule. Mais je pense que au fur et à mesure de la saison, oui, je pense que les équipes où il y aura eu pas mal de modifs vont monter en puissance. Mais pour les premières semaines, il y a des équipes qui vont gagner, je pense, à rester globalement stable.
Alors, ceci étant dit, moi, je ne me fais pas trop de soucis pour les éventuels contrôles Covid de dernière minute parce que, étant donné que la NFL a annoncé que sur la période 30 août, 5 septembre, ils ont fait, je crois, 5000 contrôles et qu'il y avait un positif, je pense que la NFL s'arrangera pour qu'il n'y ait pas trop de positifs cette année, à mon avis. Hein, parce que vu qu'on a réussi à en avoir, je crois, une dizaine à tout casser sur tout l'été, j'arrive pas à y croire une seconde et je pense que ça sera la même chose que les joueurs du PSG, du Bayern et du machin qui sont miraculeusement tous devenus positifs juste après la finale de la Ligue des Champions. On l'a bien vu, la NFL à un moment il y a eu un lot de 70 positifs d'un coup, ils ont fait laissez-nous faire, c'est le labo, nous on sait. Je crois pas une seconde, enfin pas une seconde, mais j'ai du mal à croire que ça va poser des problèmes franchement.
Oui, je suis sceptique aussi, mais bon,
quand on voit que les mecs arrivent à cacher des ligaments croisés pétés, ils vont pas s'emmerder pour un Covid, quoi. Si le mec, à part si le mec est en train de ramper par terre en crachant ses poumons, je pense que on le saura pas.
C'est ça.
Les questions de la rentrée par LW75, qu'est-ce qui vous excite le plus dans cette nouvelle saison? Allez, t'as le droit qu'à un seul truc. Les Bucks, Bill et Newton, Lamar Jackson de le retour, Joe Burrow la pépite.
Bah, Joe Burrow, forcément, moi, c'est mon côté draft, hein, mais c'est sûr que je suis très intrigué à l'idée de voir ce qu'il peut donner. Même Tagovailoa, hein, je sais pas s'il jouera dès cette saison, mais j'ai hâte de voir ce qu'il peut donner à Miami. Ouais.
Moi, j'avoue que j'arrive pas à me décider entre les Bucks et Bill Belichick et Cam Newton. Les deux ont quand même un super potentiel. Quelle équipe peut finir à 0-16 et quelle équipe peut finir invaincue? Je vois pas d'invaincu. Par contre, 0-16, les Jaguars sont dans la course.
Oh, 0-16, c'est dur.
Non, je pense pas qu'ils le feront. Hein. On en gagne
pas. Non, après, si on parle d'équipe amenée à être le plus probablement dans ce cas de figure, oui, je te dirais Jaguars, oui, à 0-16 et potentiellement à 16-0.
On voit pas.
Si tu veux en mettre un, tu veux aller peut-être les Saints.
Non, moi je j'y crois pas du tout. Ça, zéro.
Je te dis pas que j'y crois plus. Je te dis si je sors le candidat le plus probable.
La division la plus ouverte et la plus cadenassée.
J'avais réfléchi là-dessus en plus. Division. Alors la plus cadenassée, forcément, j'irais plus vers la NFC West. La NFC. Ça dépend ce qu'on entend par cadenassée, mais en tout cas, celle avec le plus haut niveau et où ce sera. Où ça va batailler le plus dur, je dirais quand même NFC West.
Alors en fait, moi je l'avais compris différemment. Cadenasser, je l'avais compris au sens il y a un favori et point barre quoi. Tu vois, les cadenasser, genre les Chiefs, à mon avis, cadenassent leur division. Et la plus ouverte, en effet, serait la NFC West, où peut y avoir le.
Ah oui, oui, d'accord.
C'est la plus incertaine, tu vois.
Bah alors du coup, je dirais la NFC Est, hein, la plus cadenassée.
Tu penses que Dallas est ultra favori?
Bah, les Eagles avec leur. Avec leur hécatombe de nouveau sur la ligne offensive, le fait que, dernière nouvelle, il n'y a pas encore de receveur vraiment dominant, je ne sais pas, je ne les mets pas encore au niveau de Dallas à l'heure actuelle.
Je pense que Kansas City est bien plus large dans sa division que Dallas, où ils arrivent toujours moyen, ils ont toujours un moyen de se tirer une balle dans le pied.
Ouais, mais encore une fois, c'est à contextualiser. Mahomes a été blessé pendant une partie de la saison dernière, mais il me semble qu'ils sont pas à 6-3 ou 6-4 quand ils perdent à Tennessee, ils sont pas super bien d'un point de vue comptable. Et c'est vraiment leur deuxième partie de saison qui les remet vraiment dedans. Après, moi, je les vois quand même sur des matchs à Las Vegas ou des trucs comme ça. À mon avis, ils vont être un peu emmerdés. Puis on l'avait dit, ils vont quand même jouer les Saints à l'extérieur, les Bucks à l'extérieur. Je ne sais pas si, quantitativement, ils peuvent faire la différence d'entrée.
Quels sont les quarterbacks titulaires qui vont être mis sur le banc en cours de saison? Question de Freakazoid.
Bah, pas Teddy Bridgewater, déjà.
Parce qu'il n'y a personne derrière ou
aussi c'est à prendre en compte. Tyrod Taylor,
Mitch Trubisky.
Ouais.
Bon, après Trubisky, c'est pas que je crois follement en Nick Foles derrière, hein, mais bah, oui.
J'étais partisan. Enfin, en tout cas, je pensais que Nick Foles aurait l'ascendant pendant les camps. Manifestement, c'est pas ce qui s'est passé. Donc, j'attends de voir ce que donne Trubisky. Mais oui, on va dire si on cherche un trio, Trubisky, Taylor et puis éventuellement Fitzpatrick.
Tyrod Taylor. Oui, voilà. Tyrod Taylor et Ryan Fitzpatrick, c'est un peu le cycle de la vie, j'ai envie de dire. C'est un peu le cycle de la vie qui va se répéter. Les Browns ont bilan positif cette saison et peuvent-ils prétendre à une place en play-off? Question de Johnny Manziel, est-il élu?
Bah écoute, je les ai guignés l'année dernière. Après, je pense que c'est un poil mieux coaché, mais si on attend à voir ce que peut donner Kevin Stefanski. C'est un poil mieux coaché. Il y a eu une intersaison un peu moins bling-bling. On a cherché avant tout à miser sur la stabilité en considérant quand même la ligne offensive qui était un gros point négatif en 2019. Si on pose la question à moi, je les mettrais dans les 7. Après, ils ont quand même surtout une fin de calendrier assez intéressante. Ils ont les deux déplacements, notamment à New York. Ils ont des équipes qui restent quand même à leur portée. Donc, je dirais oui, ils ont la possibilité d'être en play-off. Après, ils ne seront pas... Je doute qu'il soit à 11-5 ou 12-4. Quoi.
Allez, deux questions pour terminer. Paronyme, actuellement, quel est le meilleur quarterback de moins de 30 ans, de moins de 40 ans, de plus de 40 ans? Bon, Patrick Mahomes, moins de 30 ans. Ouais, c'est réglé.
Plus de 40 ans, Brady, non? C'est pas le seul.
Plus de 40 ans, Brady.
Après, moi, j'ai fait mon ranking quarterback, donc certains ont la réponse. Hein, mais
Alors, attends. Moins de 30 ans, Mahomes. Moins de 40, Wilson. Moins de... Et plus de 40, Brady.
Oui, on peut dire ça. Ouais.
On est pas mal. Et j'en avais une dernière. Tony Gonzalito. Andy Reid, ce fin gourmet, a déclaré que sa bague de Super Bowl lui permettrait d'avoir des cheeseburgers gratuitement. Si vous étiez à sa place, quel avantage tireriez-vous de votre statut de champion? En dehors des trucs, évidemment, très... comment dire? Non, je sais pas, je me perds dans ma réflexion. En dehors de draguer en boîte, c'est ça que j'allais dire.
Oh, franchement, je sais pas. Je sais pas. T'as une idée là-dessus, toi? Parce que j'avoue, j'ai pas.
Je sais pas. En fait, ce serait pas tout à fait mon truc de me balader avec ma bague en avant, tu vois, pour dire regardez, je suis champion et tout ça. Mais si je devais le faire, je sais pas. Donc, imagine, t'es une star, t'as une bague, tu te balades dans Kansas City, tu peux faire ce que tu veux. Non, mais là, enfin, ouais, se faire payer un verre ou une bouffe, c'est bien. J'irai pas plus loin, j'oserais pas avoir des trucs genre plus gros et tout, sachant qu'en plus, si t'es champion, t'es pété de thunes, tu vois, donc tu vas pas demander des trucs gratos, quoi.
Oui, oui, non, je sais pas. C'est une question piège.
Ouais, c'était une question piège, c'était pour nous tester. Eh bien, écoutez, c'est sur cette question piège qu'on va terminer l'épisode de la saison 10, épisode 1, 359. Je sais pas, dites-moi ce que vous préférez, si je dis 359 ou maintenant saison 10, épisode temps, du podcast Jean Actu. On remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre. Et après les vacances, je remercie Mathieu Tyran, Arnaud Doucet, Vincent, Quentin, David Schuspiter, Frédéric, Vincent et Quentin. Bah, Quentin, je l'avais mis deux fois. Voilà, merci encore à eux qui nous soutiennent sur Tipeee, n'hésitez pas à les rejoindre. Je fais une petite précision parce qu'on nous a fait la remarque sur les previews et on est toujours transparent avec vous, notamment quand ça concerne ce qui est la pub. Vous avez peut-être remarqué que depuis quelques semaines, vous pouvez parfois, c'est pas toujours le cas je crois, entendre une petite pub avant et une petite pub après l'émission si vous nous écoutez en audio sur tout ce qui est plateforme, Spotify, etc. Sachez que, bah, évidemment, c'est des revenus pour nous, c'est un système qu'on a mis en place pour les fois où on n'aura pas de partenaire direct sur l'émission, ce qui pourra arriver plusieurs fois cette saison, tout simplement parce que bah, voilà, le Covid est passé par là, donc il y avait des choses qui ont bougé un peu pour nous en coulisses. On remercie évidemment nos partenaires qui nous soutiennent et qui nous soutiennent encore de différentes manières, parfois par l'émission, parfois par d'autres moyens sur le site. Donc, on les remercie, mais ça a fait bouger un petit peu les choses. Donc, on a dû chercher des solutions. Cette pastille pub, ça dure 30 secondes maximum avant, 30 secondes après. Alors, je sais qu'on a entendu Laurent Deutsch parler d'une grande surface ou des choses comme ça. Ça permet de se rappeler que Laurent Deutsch existe quand même. Mais voilà, donc c'est... il y a deux écoles, c'est-à-dire que ça, honnêtement, ça se, voilà, vous écoutez ça d'une oreille distraite, c'est passé, ça dure que 30 secondes et ça nous aide. Et d'un autre côté, ça évite que moi je parle d'un partenaire. Il y aura jamais les deux en même temps. Vous entendrez en tout cas jamais une pub avant et le partenaire dedans. En tout cas, on essaiera d'éviter au maximum ce genre de configuration. Mais voilà, c'est juste pour vous expliquer. On fait ça. C'est pas toujours par plaisir. Moi personnellement, je préfère qu'on parle de partenaires dans l'émission parce que c'est des partenaires qu'on a eu en direct et avec qui on a quelque chose. Mais sinon, voilà, on mettra ces petites pubs avant et après. Et je vous remercie évidemment de votre compréhension. Merci beaucoup, Grégory.
Toujours un plaisir.
Bon, bah, c'est pas mal cette petite formule remaniée là du jeudi,
n'est-ce pas?
Un peu de débat, un peu de questions, on est bien. Donc, oui, c'est un peu plus podcast aussi hein, que la preview pure et dure. Et vous l'avez vu, on n'est plus en vidéo sur le jeudi cette saison. Pour nous suivre, @TDActu sur Twitter et Facebook, @TDActu en entier sur Instagram, @YellowRadioSa pour Greg sur Twitter, @AlainMatei pour moi-même. L'actu de la NFL, c'est sur TDActu.com. On vous souhaite une très, très bonne rentrée NFL à tous. Merci, Greg, encore une fois. Très bonne saison à toi. Très bonne saison à tous. Ciao, ciao.
Analyse, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Beast Mode pour Marshall Lynch, Rocklash Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.